Après ces beaux voyages que nous avons faits les 2 semaines dernières, nous allons revenir à des choses beaucoup plus intéressantes pour vous, Monsieur Diego Rabal, même si je sais que les voyages, vous les aimez, la
Ah ouais.
culture, vous l'aimez également. Bonjour Diego d'abord.
Eh bien bonjour Philippe.
Et bonjour à Philippe Nouni
Bonjour Philippe, bonjour Diego.
Bonjour qui a en
Philippe.
fait a pris votre manie de maintenant prendre son téléphone et envoyer des SMS
Ah
pendant
voilà,
l'émission. Il
ouais.
a chaussé ses lunettes, il avait un, alors il n'a pas trop l'habitude parce qu'il fait avec un doigt. Il
Ouais.
n'est pas comme les ados où ils
Ah non,
font.
ah non, alors je sais pas comment ils font. Ah ben
Je
moi non
pense que
plus.
moi je suis Homo sapiens 1 et que eux c'est les Homo sapiens 2.
2,
voire 3,
voire 3
3.0.
même. Ouais, voilà, ouais. Je pense que
2.0.
j'ai loupé deux
Voilà.
versions
Nous
là.
avons
Alors,
un
nous avons un
invité
invité au téléphone
que nous connaissons bien
que
sur
nous
Radio
connaissons
Présence.
bien, que nous recevons relativement
Régulièrement,
fréquemment,
oui.
puisque il publie de façon très régulière. Donc, nous avons le plaisir de le
Moi, il
recevoir.
m'impressionne parce que vous avez le livre là. Et bien sûr, moi, j'ai la chance
Oui.
d'avoir le livre. Il vous dit, il en sort un par
Par
an à
an.
peu près. Et vu le nombre de pages, moi, ça m'impressionne. Parce que
Bah,
là,
il
pour écrire
travaille.
ça, moi, il me faut une vie.
Ah oui,
Un, hein.
ouais. Alors, c'est Georges-Patrick Glaise. Bonjour Georges-Patrick, comment allez-vous?
Bonjour, bonjour.
Alors, nous vous recevons aujourd'hui pour Couperaz, votre dernier roman qui est sorti chez Calman Levy, Territoire. Alors, c'est comme d'habitude un roman qui oscille entre d'un côté du polar. Mais un polar très particulier, puisque généralement les enquêtes ne sont pas menées par des policiers ou des détectives privés, mais par des personnes qui sont confrontées à des situations dramatiques et qui essayent de résoudre le problème à la place ou contre. Les conséquences de la police. Alors, comme vous connaissez notre principe de fonctionnement, donc je vais pendant quelques minutes vous lire le petit texte que m'a suscité votre beau roman, et puis ensuite, bah, nous échangerons autour de cette question. Les heures s'écoulent monotones à Mauriac-le-Vieux en Corrèze. Petit bourg rural qui vivote entre chiche agriculture et fluctuante activité forestière, jusqu'à ce qu'on découvre le cadavre de Mathieu Champex. Celui-ci est un médiatique militant écologiste, originaire du village qu'il a quitté à l'adolescence. Là, l'enquête s'enlise devant le mutisme obstiné des habitants. Valérie Lafarge, journaliste d'un grand hebdomadaire parisien, est envoyée sur place pour couvrir l'affaire. Comme la maréchaussée, elle se heurte aussi au mur du silence, mais installée sur place, elle réussit à glaner des confidences bourrues. Une nouvelle piste s'ouvre. Le massacre commis quelques semaines plus tôt de centaines d'arbres centenaires. La couperase du titre. Accumulant les péripéties autour de son héroïne, Georges-Patrick Glaise nous plonge dans les méandres des mentalités campagnardes, nous confronte aux rivalités et rancœurs ancestrales. Brosse le tableau violent d'une économie forestière sous pression dans un environnement social où la survie du groupe est en jeu. Sans misérabilisme, l'auteur nous fait rencontrer des gens rugueux mais fiers, attachants dans leur fragilité cachée. Un beau roman de terroir, loin des clichés régionalistes. Couperaz, Georges-Patrick Glaise, Calman Lévy, Collection Territoire. Eh bien, bonjour, Georges-Patrick.
Bonjour, oui.
Vous retrouvez ce que vous avez écrit dans ma réaction?
Tout à fait, c'est une excellente recension de ce roman que j'ai eu beaucoup de plaisir, moi, à écrire et dont j'espère que les lecteurs auront beaucoup de plaisir à parcourir les pages.
Eh bien, je veux dire que moi, en tant que lecteur, j'ai vraiment pris un grand plaisir à suivre cette saga ou cette histoire qui se déroule dans cette forêt. Quand j'ai commencé à lire votre livre, j'ai repensé à quelque chose, un fait divers qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans, ou 2 ans, je crois, de ces forestiers indélicats venus de l'autre côté d'une frontière dont je ne dirai pas le nom, et qui avaient abattu plusieurs centaines d'arbres
Oui,
dans une forêt privée.
c'est un effet le point de départ qui m'a mis sur le chemin de cette enquête. Hein. Mmh. Votre perspicacité est tout à fait justifiée. C'est en effet cette histoire qui s'est passée en Ariège, à Perlin-Castellet exactement, ouais. Où les bûcherons espagnols ont coupé 350 chênes des centenaires, qui m'a éveillé et donc que j'ai travaillé. Mais pour des raisons, disons, de paix dans les ménages et dans le pays, okay. Je l'ai délocalisé en Haute-Corrèze.
Oui, oui. C'est une région que vous connaissez bien ?
Alors, je connais bien cette région puisque ma femme est corrézienne. Ouais. Et nous y allons souvent en vacances, nous avons une maison de famille là-bas et de la famille. Donc, je l'ai délocalisé aussi là-bas. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que le problème là-bas était les mêmes qu'ici.
Tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, c'est on est là face à des problèmes qui sont assez classiques dans les
forêts. La forêt française, ouais. Actuellement est l'objet d'un véritable pillage, pour employer le mot, hein. Pillage de la part de certaines personnes mal intentionnées qui, hors réglementation européenne, coupent du bois et l'expédient vers la Chine qui le reçoit et qui ça nous revient ensuite. C'est tout un trafic. C'est énorme, énorme, énorme.
Alors, il y a des coupes qui sont réalisées régulièrement, puisque vous parliez de la Chine, et puis ils achètent des forêts et ils font les coupes dedans. Mais il y a aussi, surtout, ce qui est scandaleux, ces coupes sauvages qui sont réalisées à l'intérieur des forêts.
Tout à fait. Et, les alors, coupes sauvages et... Personne ne sait où ça part, mais ça part vers des circuits mystérieux. Bon, et au passage, ça s'agresse les pattes de certains, c'est évident.
Tout à fait. La question que je me posais quand j'avais lu le fait divers, mais que vous décrivez dans le roman, c'est comment est-ce qu'il est possible qu'on puisse faire venir des camions trimballer des quantités de grumes qui sont considérables, hein, parce que plusieurs centaines d'arbres, ça fait quand même une bonne dizaine de camions. Hein. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage de contrôle ou qu'on puisse plus rapidement tomber sur ces personnes indélicates?
C'est une omerta considérable, parce qu'il y a des intérêts puissants, et puis bon, si on prend les problèmes à la source, souvent les commanditaires ne sont pas identifiés. On cherche pas trop à les identifier, parce que peut-être ces commanditaires seraient dérangeants si on savait qui ils étaient.
D'accord.
Alors, si on touche un sujet qui est assez sensible, et bon, il ne faut pas faire trop de vagues, quoi, disons. Hein, bon, mais en effet, c'est l'histoire de Perlin-Castellet dans l'Ariège a été mon point de départ de réflexion. Mais à partir de là, bon, je l'ai bon, complètement remanié, bien sûr. J'ai pas mis des Espagnols, j'ai mis des Roumains, bon, oui. j'ai mélangé des pistes, bien sûr. Mais ça a été ce qui m'a éveillé. J'ai trouvé cette histoire absolument extraordinaire. Parce que ça a duré pendant un mois et demi l'affaire. Hein. Bon, un mois et demi, les Français ont tourné, des dizaines de camions de grumes, comme vous l'avez dit, se sont promenés, et personne n'a rien vu. C'est merveilleux.
Oui, oui, c'est totalement incroyable que quelque chose comme ça puisse se passer en plein cœur de nos villages et que personne ne remarque quoi que ce soit.
Tout à fait. Alors, c'est pas un phénomène isolé, hein. On connaît ce phénomène aussi dans d'autres régions, en Ardèche, en Alsace, dans ouais. Les pièges orientales, etc. Il y a plein de cas similaires, hein. Je me suis rendu compte. C'est assez, c'est extraordinaire.
Ah oui, en travaillant là-dessus, vous avez relevé ouais, d'autres cas similaires.
C'est pas le seul cas. Seulement, ils sont pas médiatisés. Bon. Mais les gens ont vécu ça de manière très difficile. Hein. Certains ont vu des forêts qui étaient des forêts qui appartenaient à leurs grands-parents, à leurs arrière-grands-parents coupés. Et ils l'ont senti presque comme un viol, ils m'ont dit. Bon, littéralement. Mmh. Et c'est le viol de ce qu'ils étaient eux-mêmes, de leur propriété, de leur chair, de ce qui faisait leur personnalité. Et je veux bien le croire, c'est très difficile à imaginer. Quand on voit le ravage que ça procure, c'est monstrueux. Hein, bon, hein. Et donc, tout ça pour une indemnisation qui a été misérable. Hein, bon.
Oui, parce que c'est les valeurs vénales qui sont faibles et qui sont pas du tout qui correspondent pas du tout à la valeur marchande.
Moi, 2 000 ou 3 000 euros qui leur avaient été donnés à chacun, c'est rien du tout, quoi. Par rapport à la chaîne centenaire, c'est rien du tout. Bon, et alors, les bruits courent, il y a beaucoup de bruits, de rumeurs. Par exemple, la rumeur a couru que ces bruits d'arbres ont été coupés pour faire des charpentes pour Notre-Dame de Paris. C'est totalement faux. Il n'y a pas eu un des arbres qui est parti là. Il y a eu par contre des arbres dans les Pyrénées qui sont partis pour Notre-Dame, ça c'est exact, mais pas ceux-là en l'occurrence.
Ouais, ouais. Bah, ils ont été coupés régulièrement, je pense, les autres.
Oui, c'est vrai, c'est coupé très régulièrement et très surveillé, sans aucun doute.
Je pense, oui.
Avec une traçabilité parfaite.
Votre personnage, Valérie Lafarge, est intéressant parce que c'est quand même une citadine qui revient s'installer à la campagne et qui malgré tout n'est pas acceptée alors qu'elle est une enfant du pays.
C'est une enfant du pays qui revient, là, qui est très jeune, mais là, qui avait 5 ans quand elle a quitté le pays.
Ouais.
Elle revient et elle redécouvre en tirant la terre aux enfants, c'est un retour aux sources, c'est vrai. Et en même temps, bon, elle est perçue comme une étrangère parce que bon, elle est plus là, elle est plus ici. Bon, et puis elle exerce un métier qui est plus ce qu'on exerce dans le pays. Bon, et puis c'est pour la gratter. Donc elle est mal perçue par le maire, notamment, qui si pouvait se débarrasser, se débarrasserait.
Le maire qui, en même temps, est le propriétaire d'une grande scierie locale, qui est en gros la seule activité industrielle dans ce village.
Qui est la seule activité industrielle et qui a un rôle au départ, tel qu'on le voit, qui est assez trouble. Mais en fin de compte, au fil des pages, j'en divulgué la vérité.
Oui, ne divulgâchons pas.
Le maire n'est pas si antipathique que ça, in fine. Hein. In fine, il n'est pas si antipathique que ça. Il a des raisons qui expliquent son comportement. Hein. Bien sûr, il veut sauver sa commune, il veut sauver son pays, bon, sa région, c'est vrai. Mais c'est vrai que, de premier abord, il paraît plutôt antipathique, ce maire. Et elle se heurte à cette personnalité, une personnalité forte et trapue, qui pèse lourd dans le poids politique du village.
Ah ouais. Mais l'héroïne n'hésite pas je ne dis pas à l'affronter, parce qu'elle est plus fine que ça, mais elle n'hésite pas à essayer de pouvoir se frayer un chemin et obtenir les informations qu'elle cherche. Des informations que lui réclame d'ailleurs son magazine.
C'est une femme courageuse, c'est une femme d'aujourd'hui. Hein. Bon, elle est divorcée, elle a un grand ado qui pose des petits problèmes, bon, etc. Bon, c'est des problèmes de cadre avec son grand ex-mari. Bon, une femme d'aujourd'hui, journaliste moderne, elle a une quarantaine d'années. Et bon, elle est battante, hein. Bon, j'ai pas une fille qui sait se faire et avoir facilement. Bon, elle a des capacités de lutte et de résistance, et on s'en laisse pas compter.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est vos personnages un peu ambivalents, comme le fils de la logeuse, taciturne, dont on peut craindre à un moment donné qu'il ne fasse partie de ceux qui mettent la pression sur la journaliste pour qu'elle quitte. Mais c'est des personnages vraiment très, très bien campés et très attachants, en fait.
Oui, c'est quelqu'un qui aime la forêt et qui est prêt à s'engager beaucoup par rapport à sa forêt. C'est un gars du pays et avec toute cette polyvalence qu'il a, cette bivalence entre son avenir et puis la fidélité qu'il doit à son pays. Et c'est un taiseux, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Hein. Donc tout est dans le regard, en fin de compte, avec lui. Et elle, la journaliste, elle a du mal à le comprendre. Percevoir, bon, c'est un monde fermé, en fin de compte, hein, très très clos, hein.
Oui.
C'est un microcosme, bon, hein, bon.
Alors c'est un monde qui est à la fois fermé, mais où le service de renseignement est efficace, puisque il suffit qu'elle arrive là pour que tout le village sache qu'elle est là, tout le village et même au-delà ait une idée de ce qu'elle vient faire et qu'elle se sente surveillée, qu'elle soit surveillée, pas forcément de façon malveillante, mais on sent bien la pression sociale qu'il y a dans ces villages-là aussi.
Elle est surveillée, elle est le petit canard qui vient boire dans la mare alors qu'on n'a pas demandé de venir. Bon, elle n'est pas forcément la bienvenue, on l'observe. Bon, mais c'est une femme en plus, donc il y a un univers un peu misogyne, hein, qu'il y a derrière. Et bon, elle est parisienne en plus, donc elle est pas forcément vue d'un bon œil. Hein, bon, et les gens du pays sont pas, ils sont plus solidaires. Elle est l'adversaire un peu, l'ennemi. C'est ce qui vient troubler l'eau. Bon, donc cette duplicité qu'il y a dedans, et là, il faut qu'elle nage dans cette mare des canards et arriver à trouver son chemin. Bon, hein.
Voilà, et ne pas se faire manger par les brochets.
Voilà, tout à fait, tout à fait.
Donc je rappelle que nous parlons de Coupe rase de Georges Patrick Glaize, un roman policier, mais pas que, chez Calman Lévy, Territoire. Dites-moi, Georges
Oui.
Patrick, est-ce que vous avez des projets, puisque vous êtes quelqu'un qui régulièrement produit
Ah oui,
des romans, donc
je...
je subodore que vous travaillez sur un nouveau roman. Est-ce que vous pourriez
Vous
nous en dire quelques mots?
subodorez bien, très très bien. Je termine exactement, je termine un roman, je suis à la page 200 et quelques, vous voyez. Donc
Donc en
il me reste
gros, les deux
17 pages
tiers.
à écrasser, que je devrais donner normalement début avril à mon éditeur pour une parution au mois de septembre. Un roman qui est s'inscrit un peu dans la même thématique. C'est un roman, disons, un polar rural, hein, mais avec moins de ruralité là et un peu plus de citadinité, puisque toute une partie qui se passe à Toulouse, exactement. Et après, le reste se passe dans le Quirigut. Le Quirigut, vous savez, c'est cette région de l'Ariège qui est un peu particulière, qui est frontalière avec l'Aude, et qui est un peu une sorte de Québec ariégeois, un peu une zone intermittente, une zone de limite de marge, où il n'y a pas grand monde. Et dans ce pays-là, qui est fort joli, un très beau paysage, c'est là que j'ai situé la deuxième partie de mon roman. Alors c'est un polar, mais avec un petit peu d'actualité, un poil d'espionnage, etc. dedans, il y a un peu de des éléments de géopolitique moderne, disons.
D'accord. Donc vous, en fait, vous utilisez vos compétences propres, puisque je signale que vous êtes agrégé, ou du moins à la retraite aujourd'hui, mais vous êtes agrégé d'histoire.
Oui, j'ai fait l'histoire,
Voilà.
oui.
Et puis vous êtes aussi auditeur à l'Institut des hautes études militaires, non? Quelque chose.
Exact.
Voilà. Donc je veux dire que là, vous allez mélanger un peu, tricoter entre
Mélange un
ces
peu
différentes casquettes.
quelques pincées de l'un et de l'autre pour, disons, faire un assaisonnement qui soit, disons, cuisant et qui tienne le lecteur en haleine, bon, avec un roman qui est un roman aussi d'actualité, qui est dans le fil de l'histoire, qui pourrait être vrai, bon, c'est parti d'un fil de fait réel, et c'est aussi, là aussi, et puis, bon, après, j'ai dérivé sur autre chose, bon. Alors, je ne connais pas encore le titre, parce que, bon, c'est pas encore fixé, hein, faut qu'on
Vous
discute
en
ça
discutez avec
avec
votre
l'éditeur.
éditeur des titres, ou c'est votre éditeur qui vous les
Alors,
propose?
moi, je propose, et puis ensuite, on négocie, on discute, bon, voilà, bon, et en général, souvent, on tombe d'accord, là. Là, pour l'instant, je voudrais partir avec un titre de la dernière traque, quelque chose comme ça, bon, mais je sais pas encore sûr, bon,
Ok,
c'est pas,
ben.
c'est à affiner, ça.
D'accord, ben, on aura le plaisir de vous recevoir. Donc vous
Mais
dites que
normalement, c'est
ça paraîtra en
pour la rentrée
septembre.
littéraire, voilà.
Ok, ben écoutez, ce sera un grand plaisir
Et vous le
de.
recevrez en service de presse sans problème.
Eh ben c'est super, je les reçois de façon très régulière et ça me fait plaisir de vous inviter aussi de façon tout aussi
Mais c'est un grand
régulière.
plaisir pour moi de venir sur vos ondes.
Merci beaucoup, Georges Patrick. Donc je rappelle que c'est Coupe rase, Georges Patrick Glaize, un roman policier, mais pas que, chez Calman Lévy, collection Territoire. Merci beaucoup et à très
Merci.
bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Voilà un polar de plus, un ami hein, maintenant, parce que il a la carte de fidélité sur
Tout
Radio
à fait,
Présence.
tout à fait.
Là, on en est peut-être au troisième, quatrième livre
Là,
que
je
vous
crois que c'est
présentez.
le quatrième ou cinquième que je présente de Georges Patrick Glaize. Ben oui, ça fait. Ah
On
ouais,
verra
on,
prochainement.
en septembre, octobre, quand
Oui.
j'aurai son
Son
nouveau
nouveau
roman, ce
livre.
sera avec grand plaisir que nous le recevrons
Et
ici pour nous en parler.
ce qui est étonnant, c'est de pouvoir discuter, parce que vous-même, Diego, vous écrivez des polars, des
Exact.
trailers, et du coup, ben vous lisez aussi les autres, et
C'est nécessaire quand même hein,
ouais.
de lire les autres, en essayant de ne pas se faire, comment dirais-je, trop influencer, parce que après ça devient du plagiat. Mais
Oui.
c'est important de lire les autres pour savoir aussi
Est-ce que,
ce que l'autre écrivent.
une question, est-ce que vous avez lu un livre un jour, vraiment un livre qui vous a marqué, celui-là, j'aurais aimé l'écrire.
Oh ben, il y en a pas plus, il y en a plus qu'un.
Ah,
hein.
Oui.
Ah ouais, ouais, ouais. Il y a quand même de très beaux polars où je me dis ben. Je n'arrive pas à la cheville de celui qui l'a rédigé.
D'accord.
Mais je ne dirai pas de nom pour ne pas faire de jaloux.
Peut-être l'auteur d'aujourd'hui qui est là. Peut-être, on va le saluer. Voilà. On va le saluer.
Il y a quand même, moi je dirais, dans les romans écrits par Diego Arrabal, hein, juste pour terminer là-dessus, il y a quand même une. Toute la fibre quand même liée à l'Espagne, hein, parce que vous avez écrit quand même beaucoup de romans liés à l'Espagne. Je pense notamment à celui qui parle, moi c'est celui qui m'a le plus touché, à ces enfants qui ont été enlevés.
Oui, Jour de colère.
80 000, voilà, ouais. Jour de colère. 80 000 enfants quand même qui ont été enlevés. Ça fait écho d'ailleurs, je trouve aujourd'hui ce livre à ce qui se passe en
Ukraine.
En Ukraine,
oui.
Où on déporte des enfants. Je pensais à vous l'autre jour, Diego Arrabal, en entendant ces infos où les enfants sont déportés en Russie. Exactement ce
et
qui s'est passé là.
Adoptés de façon,
pour avoir une éducation,
forcée,
permettre
ouais.
le renouvellement du régime, former les élites qui allaient effectivement permettre sa continuité au-delà de la vie même de Franco. Mmh. Voilà, je trouve que Jour de colère, c'est un livre, c'est sans doute le livre que vous avez écrit qui est le plus international et qui fait écho aujourd'hui à d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très, je dirais pas social, c'est pas le bon terme, très historique et très engagé.
C'est un livre engagé, c'est un livre historique, c'est un livre politique aussi, dans le sens où il est engagé par rapport à ça. C'est un livre qui maintenant a au mois de septembre de cette année, il aura 8 ans. Il a été publié il y a 8 ans. Et il est vendu de façon très, 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 très régulière.
Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est un excellent roman.
Alors
et puis...
que les romans, vous le savez bien,
voilà,
Philippe,
trois
vous
mois,
êtes
ouais.
aussi, voilà, au bout de 3 mois, 4 mois, la courbe s'effondre et puis on en vend un ou deux. Mais c'est
oui, mais Jour de colère, c'est un livre intemporel, c'est un roman intemporel, dans le sens où, comme je disais aujourd'hui, ben, vous l'avez sorti il y a 8 ans et on voit aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer qu'il y aurait cette guerre et surtout qu'il y aurait des milliers d'enfants donc, qui sont déportés de l'Ukraine vers la Russie pour faire exactement ce qui s'est passé en Espagne. En 1936, hein, c'est-à-dire
comme
qu'on dit souvent 39, que l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye.
Ouais,
c'est
ouais,
exactement
voilà.
le cas. Ouais. Et voilà, ce roman, il a cette capacité à être intemporel. Et c'est rare d'avoir des romans intemporels.
Et pour terminer cette entretien, je tenais à vous remercier aussi à tous les deux parce que c'est votre chronique. Un jour, un livre auteur, vous recevez chaque semaine des auteurs, mais aussi on est allé visiter des maisons d'édition, on a parlé de théâtre, on a parlé de poésie, on a parlé de plein de choses. Et je tenais à vous remercier aussi sincèrement parce que vous n'êtes pas là pour faire la promo de vos bouquins, parce que d'ailleurs, on en parle. Jamais. Vous n'êtes jamais auto-présenté un bouquin que vous avez écrit tous les deux. Donc je tenais à vous en remercier parce que c'est peut-être aussi dommage un jour que ça serait bien que Philippe Donny présente un de vos livres et vous peut-être aussi.
Mais je pense que j'ai présenté
Jour de colère.
Ouais, vous avez présenté Jour de colère.
Parce que, comme je le disais, c'est un livre moi qui est resté dans ma mémoire. Alors c'est vrai que je le reconnais, je ne suis pas très polar, d'où l'intérêt dans cette chronique.
D'être à deux parce que
Diego est capable d'apprécier des romans que moi je ne suis pas capable d'apprécier parce que je ne suis pas. Polar. J'en lis pour ainsi dire jamais des polars. J'aime beaucoup les romans intimistes, ce qui est par contre dans la veine des romans
fibre,
effectivement
vous,
que
vous couvrez à tous les deux 100% de la, pratiquement 100% de la littérature.
Ben oui, c'est ça qui est bien.
Voilà.
Quoi.
Exactement. Et donc du coup, je tenais aussi à vous remercier parce que vous n'êtes pas là pour faire votre autopromotion. C'est pas votre la chronique pour faire
c'est
la promotion.
C'est pas l'idée.
Et vous mettez à l'avant les autres.
On peut partager les remerciements avec vous et vous les renvoyer, Diego Arrabal. Parce qu'on ne serait pas ici, et moi en tout cas le premier qui suis arrivé dans cette émission, il y a 10 ans maintenant, vous vous rappelez, c'était en septembre 2013.
Moi, pour faire simple, je vous garantir que dans cette chronique-là, je ne fais pas grand-chose.
Oui,
se trouver un agenda commun.
Mais vous ne m'auriez pas proposé à l'époque de faire cette émission, et moi ensuite, en faisant la connaissance de Diego Arrabal, lui proposer d'intégrer cette émission, parce que moi j'étais incapable, et j'en suis toujours d'ailleurs incapable, de parler des polars. Et je trouve que c'est très, très intéressant qu'il le fasse tout seul parce que moi je suis incapable d'en... Voilà, vous n'auriez pas été là, aujourd'hui il n'y aurait pas cette émission et il n'y aurait pas les directs que l'on fait au Salon du Livre, de Bagnères de Bigorre depuis...
Il faudra qu'on essaye d'ailleurs peut-être aussi de sortir des murs pour de temps en temps proposer aussi des directs ailleurs, pas forcément dans des salons
on a fait Pyrénées-Rando, le Salon du Livre
en haut là-bas, en haut d'Argelès,
à Reims-Marsous
tout à fait
à Reims-Marsous et d'ailleurs je ne sais pas si ça sera pas cet c'était il y a 2 ans d'ailleurs. Je ne sais pas si ça sera
passé. Oh, il y a plus que ça, puisque.
Ah non, c'était avant la Covid.
C'était avant la Covid.
C'était avant la Covid. Ah oui, c'est vrai que. Voilà. Oui. On a vieilli depuis.
Et peut-être, oui.
Et le temps passe vite.
Quel âge ça vous fait, Diego Arabal?
Ah, ça va me faire 72 ans demain.
Pour 57
bon anniversaire
pour moi,
alors.
Eh ben merci.
Et bon oui, 72 ans demain. Bon anniversaire, mon cher Diego.
Eh ben merci beaucoup.
Et on se retrouve.
Je commence à passer dans la
73e.
Je commence. Non, je commence ma 72e, mais oui. Je commence à passer du côté où les bougies coûtent plus cher que le gâteau.
C'est joliment dit.
Sauf si vous en achetez. Sauf si vous en achetez que deux avec un 7 et un 2.
Oui, exactement. Oui.
Oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé à celle-là.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci
à vous.
La semaine prochaine.
Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.